cette cacophonie de départ. Bienvenue au culte à l'église de Merle. Et on va recommencer avec ce morceau de ce chant qu'on prendra tout à l'heure.
Bonjour à tous, à tous les enfants, à tous les jeunes, à tous les moins jeunes, à tous les plus âgés. Soyez les bienvenus et surtout soyez les bienvenus tous ceux qui sont peut-être pour la première fois ici dans cette salle. Si on est là, c'est qu'on veut se rapprocher de Dieu, le louer. Que Dieu puisse ouvrir notre cœur à tous. Pour le louer, pour lui dire merci. Pourquoi ? Parce que Dieu, il y a plusieurs années, a envoyé l'agneau de Dieu, son fils unique, le Seigneur Jésus. Il est descendu sur cette terre et moi, vous, l'humain, a crucifié le Seigneur. Mais, s'il est mort sur cette croix, il est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite du Père. Et il nous attend. Et il va revenir pour nous chercher. Une brève introduction par mon épouse Chantal.
Voilà, alors le sujet du culte de ce matin nous a interpellés. Car il correspond à une expérience que nous avons faite la semaine passée. Nous étions en Cappadoce, donc vous voyez là, c'est donc en Turquie, où nous avons admiré ces magnifiques cheminées de fées, comme on les appelle, qui sont faites en pierre de lave mélangée à du sable. Donc parce qu'il y a deux grands volcans en Cappadoce. Et puis devant notre admiration, le guide a précisé si vous revenez dans 20 ans, vous ne les retrouverez pas. Parce que l'érosion les aura détruites. On peut imaginer que si ces volcans ne se réveillent pas, d'ici 50 à 100 ans, tous ces paysages lunaires auront disparu. Et puis, par contraste, tu peux passer la deuxième dia, s'il te plaît ? Voilà. Par contraste, nous avons admiré la porte d'Adrien à Antalya, dont les tours datent du XIIIe siècle. Et comme vous le voyez, elles n'ont pas bougé. Leurs couleurs sont toujours identiques et leurs pierres d'angle, et c'est là qu'on vient au sujet de ce matin, leurs pierres d'angle les tiennent bien en place. Alors posons-nous la question ce matin, sur quelle base ma vie quotidienne est-elle bâtie ? Est-ce que le Seigneur en est la pierre angulaire ?
Voilà, nous avons un petit moment de louange maintenant par le groupe de louange qui vont chanter quatre chants, le 647, le 694, le 519 et le 879. Je leur donne la parole.
chantons ensemble et avec cœur ces chants. Le premier est là pour nous rassembler, pour accueillir le Saint-Esprit au milieu de nous, qui veut, il est déjà présent, mais que nos cœurs soient prêts aussi à le vivre avec lui, que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton aïeul et descends au milieu de nous. Pose sur toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée, dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous entre les branchés, lorsque tu de ton esprit dans ta gloire, viens maintenant unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance.
Dans Éphésiens, on peut lire, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils Jésus, son Fils bien-aimé. Donc la grâce qu'il nous a faite d'être appelés enfants de Dieu fait partie de la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Ça signifie quoi? C'est un peu un terme particulier. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une définition ou ce qu'il pense quand... On dit la gloire de Dieu. Est-ce que les enfants auraient une idée?
La gloire de Dieu, c'est l'homme debout.
La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Phew, là, il y a de la théologie.
C'est une citation. C'est Augustin. C'est une citation.
Merci. Est-ce qu'on peut dire que la beauté de Dieu, c'est ça fait partie de sa gloire? Sa grandeur? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tous ses attributs, l'ensemble de ses attributs. Oui, je pense aussi, effectivement. La beauté de la création fait partie de sa gloire. Hein, on a vu ces belles photos. C'est vrai que c'est assez unique d'aller percher des pierres tout là en haut, même si dans 50 à 100 ans. Peut-être l'éclat et la lumière de Dieu, c'est peut-être là-dessus que je veux focaliser ce matin, la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut regarder le soleil directement? Non, hein, c'est pas bon. Hein. faut pas le regarder, on risque vraiment d'être aveuglé et de plus voir du tout. Moi, j'ai un oncle qui a perdu la vue à force d'être trop au soleil sans lunettes. Et voilà, donc vraiment, faut pas regarder le soleil en direct. Tellement c'est aveuglant. Mais on peut le voir quand même des fois, le soleil. À quel moment ? Ils sont pas bavards, les enfants, ce matin. Au coucher de soleil, oui, merci. Au lever de soleil aussi. Quand il y a une petite brume légère, c'est étonnant ça, hein ? Quand il y a de la brume, on peut voir le soleil. Quand il n'y a pas de brume, on ne peut pas. Et je crois que cette gloire de Dieu, elle nous est donnée d'être vue partiellement aujourd'hui. Et un jour, on la verra totalement. On voit dans des textes de l'Ancien Testament que on n'est pas appelé à la voir directement, mais à la voir pour l'instant partiellement, comme dans un miroir. Alors on va demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux de notre cœur pour apercevoir un peu de la gloire, de sa gloire.
Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je élevé à la droite de Dieu, couronné de mille paroles, tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres vivent autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Saint et l'épouse.
chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne. Les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Et le chant suivant, il nous entre pleinement dans le thème du culte. Nous sommes une maison pour toi. Nous formons le temple. Il est la pierre angulaire.
Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimerais t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. Une maison pour toi, un un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta
Je vais prier pour les enfants qui vont nous quitter pour aller à l'école du dimanche. Merci, Dieu et Père, parce que tu es là, dans cet endroit, tu viens habiter avec nous. Nous voulons, Seigneur, te remettre particulièrement tous ces enfants, parce qu'ils ont besoin de t'entendre, de t'écouter, d'être avec toi. Nous te remettons aussi tous les moniteurs, monitrices qui vont leur apporter quelque chose de la Bible. Nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent grandir, ces enfants, avec toi. Nous te les remettons. Amen. J'invite le pasteur Jean-René Moret pour le message et il va se présenter lui-même en court instant.
Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je vous apporte aussi les salutations de l'Église évangélique de Cologny. Je suis pasteur à l'Église évangélique de Cologny avec mon épouse. On se partage le rôle de pastoral tous les deux. On y est depuis le 1er septembre 2017, donc ça fait un peu plus d'une année. Et comme vous le savez probablement, on fait partie de la même fédération, de la Fédération romande d'Église évangélique. Et on a cette habitude, cette tradition d'échanger de pasteurs, de prédicateurs, plus ou moins une fois par année avec chaque église de la Fraye à Genève pour consolider nos liens, pour tisser une connaissance des relations entre nos églises. D'ailleurs, votre pasteur Philippe Anchaud, que je connais bien et que j'apprécie, est ce matin à Cologny dans notre communauté là-bas. Pour me présenter un tout petit peu plus, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Gland dans le canton de Vaud. J'ai fait des études de physique avant de faire la théologie à Aix-en-Provence, à la faculté Jean Calvin. J'ai d'ailleurs étudié en même temps que Benjamin Anchaud, que plusieurs d'entre vous ont connu ici pendant son stage pastoral. Et puis, je suis content d'être avec vous ce matin pour apporter cette prédication. Le texte de la prédication de ce matin est tiré de la première épître de Pierre au chapitre 2. Et c'est un texte qui nous montre deux manières de considérer Jésus, comme une pierre angulaire ou comme un rocher de scandale. Et je crois que c'est toujours nécessaire de se situer, de se resituer par rapport à Jésus, que Jésus soit une nouveauté ou qu'on en ait entendu parler depuis bien longtemps. On a toujours plusieurs manières de le regarder, c'est important de se demander comment on va le voir. Je vais aussi donner un petit avertissement, c'est l'apôtre Pierre qui écrit ce passage, c'est aussi un passage qui parle beaucoup de pierre au sens de rocher, de caillou et de pierre de construction. Donc je vais essayer de ne pas laisser de confusion, mais il y a pierre et pierre dans cette prédication. Je lis maintenant dans la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Dans ce passage, Pierre l'apôtre parle de Jésus-Christ en tant que pierre, en tant que rocher. Il le fait en rapprochant trois passages de l'Ancien Testament qui parlent tous de pierre, dont deux qui ont l'idée d'une pierre d'angle. Dans l'Ancien Testament, ce sont des passages qui sont assez distants, qui sont dispersés, mais Pierre les interprète ensemble à cause de l'idée commune qui s'y retrouve. Parce que tous ces passages parle de pierre et de rocher, Pierre peut les prendre ensemble pour les éclairer l'un par l'autre. C'est une manière de faire qui était courante dans l'interprétation des Juifs à l'époque, et c'est aussi une manière qui permet d'éclairer la Bible par la Bible, de prendre un passage de la Bible pour préciser ce qu'un autre veut dire. Voyons donc ce que Pierre trouve à nous dire avec ces histoires de pierre. Jésus est une pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais il est aussi la pierre principale, celle sur laquelle tout l'édifice repose, celle qui donne la stabilité au tout. Pour ceux qui mettent leur confiance en lui, il est la pierre angulaire, le point d'appui, la source de l'assurance et de la confiance. Mais pour ceux qui le rejettent, il est une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Jésus est donc cette pierre qui est à la fois la fondation, la pierre d'angle, à la fois une occasion de chute ou une encouble, comme on dirait en bon vaudois. Si Jésus est ces deux choses à la fois, ça veut dire que Jésus est le point critique. En fonction de l'attitude que l'on prend vis-à-vis de Jésus, tout va changer. Selon comment on le regarde, il peut être celui qui nous fait tenir debout ou celui qui nous fait tomber. Mais pourquoi est-ce que Jésus peut être celui qui nous fait tomber? Pourquoi est-ce que Jésus est ce rocher propre à faire trébucher? Ensuite, nous verrons aussi ce que ça veut dire qu'il soit pierre angulaire et vers quoi ça nous amène en tant que peuple de Dieu. Pierre souligne que Jésus a été rejeté par les bâtisseurs. Historiquement, cela se rattache au fait que Jésus a été rejeté par les chefs juifs, désavoué par son propre peuple et mis à mort par les Romains. Quant au fait que Jésus est une occasion de chute, je crois qu'il faut le rattacher au fait que Jésus et son message ne sont pas faciles à accepter et qu'ils vont à contre-courant des modes de pensée humains, que le message de Jésus, naturellement, peut laisser beaucoup de raisons de le rejeter et de ne pas l'accepter. Et je vais prendre un passage de la première lettre de Paul, aux Corinthiens, pour illustrer pourquoi Jésus peut être une occasion de chute. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 24, Paul écrit « Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Fais une petite note au passage. En grec, un scandale au sens propre, c'est ce qui risque de faire trébucher, ce qui risque de faire tomber. Et au sens figuré, ça sert comme en français à exprimer l'idée de quelque chose qui scandalise, l'idée de quelque chose qui provoque une violente réaction négative. Mais donc, quand Paul dit que le Messie crucifié est un scandale, eh bien, il utilise le même mot que Pierre qui parle d'un rocher de scandale, d'une pierre qui fait trébucher. Ce qui fait que c'est légitime d'éclairer le passage de l'Épître de Pierre par ce passage de l'Épître aux Corinthiens. Et Paul donne dans ce passage deux raisons d'avoir des problèmes avec le message de Jésus. D'une part, les Juifs cherchaient un signe miraculeux. Ils voulaient une démonstration de puissance et de la gloire de Dieu. Ils attendaient un Messie qui fasse descendre le feu du ciel et qui soit un leader politique et militaire. Alors pour eux, un Messie crucifié, un Messie qui se fait avoir par l'occupant romain, c'est un Messie raté, un Messie en qui on ne peut pas croire. Et la faiblesse apparente de Jésus est un obstacle pour eux. On peut aussi se demander si parfois, nous, on attendrait un Messie qui démontre une puissance incroyable, un Messie qui nous donne chaque jour des miracles, qui nous en mettent plein la vue. Et ce problème d'être arrêté par la faiblesse apparente de Jésus, je crois qu'on peut retrouver ce même problème. Peut-être chez certains juifs, mais aussi chez beaucoup de musulmans, parce qu'eux accentuent beaucoup la gloire et la grandeur de Dieu. Et en soi, ils n'ont pas tort de le faire. Mais pour eux, Dieu est tellement saint et tellement puissant qu'il se tient à une distance inaccessible de l'homme, et que tout ce que l'on peut faire, c'est se soumettre à sa volonté. Mais pour eux, du coup, l'idée que Dieu soit devenu un homme, se soit abaissé, et même se soit donné dans la mort, c'est une idée scandaleuse. Et de même, dans le Coran, Jésus n'est déjà pas présenté comme Dieu, il est seulement vu comme un grand prophète. Mais même comme prophète, les musulmans n'acceptent pas qu'il ait été crucifié. Ils pensent que forcément, Dieu a dû intervenir pour le sauver et que Jésus n'est pas vraiment mort sur une croix. Ils pensent que Dieu devait forcément manifester sa puissance pour protéger son messager. Et pour eux, Dieu ne se laisserait jamais déshonorer et par la croix. Donc bref, pour eux, l'incarnation de Dieu en Jésus fait scandale parce que Dieu s'abaisse. Et la mort de Jésus à la croix est un scandale également. Donc là, le message de l'Évangile est dur à croire et à accepter. Et d'autre part, Paul parle des Grecs qui cherchent la sagesse, qui cherchent des beaux raisonnements bien ficelés. Et pour eux, l'histoire du salut en Jésus-Christ ne tient pas la route. Et de nos jours, on peut voir la même attitude parmi les rationalistes, ceux qui voudraient ne croire que ce à quoi leur raison serait arrivée toute seule, sans aucune révélation de Dieu. Ils veulent croire des choses par lesquelles ils arrivent par leur logique, et surtout pas se soumettre à une autorité extérieure qui leur dit ce qui doit être cru. Ils veulent croire à ce à quoi leur raison arrive toute seule, sans aucune révélation de Dieu. Mais croire au salut en Jésus, ça demande de croire ce que la Bible dit de la situation de l'homme devant Dieu, de croire que l'humanité est coupable de rébellion et de mauvaises actions, de croire que Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix. Et pour un rationaliste, c'est dur, ça ne semble pas très logique, et cela ne provient pas de ce que la raison humaine produirait toute seule, laissée à elle-même. Et ça peut nous arrêter encore aujourd'hui. Et moi-même, je sens que parfois je lutte avec ça. je lutte avec, avec des raisonnements, avec la tentation de vouloir un évangile qui convainque tout le monde, qui soit facile à accepter, qui semble logique de A à Z. Je vois des points où mes raisonnements et ce qu'on entend dans le monde d'aujourd'hui me mettent en question et où je me demande, est-ce que je peux encore croire ce que la Bible affirme ou bien est-ce que la logique me demande d'y renoncer ? Et voilà, ça peut être un obstacle pour nous aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas encore d'ailleurs. Et Paul dit, voilà ce qu'il cherche, des miracles pour les juifs, de la sagesse pour les non-juifs. Et il souligne que ces gens ne trouvent pas cela dans l'évangile. Mais en même temps, il dit, pour nous qui croyons, Jésus crucifié, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Une fois qu'on reçoit Jésus, on trouve en lui ce qu'on cherchait. On voit qu'en Jésus, la puissance de Dieu était à l'œuvre dans sa mort et sa résurrection. On voit que ce que Dieu a fait pour nous sauver en Jésus-Christ est plus sage, plus intelligent et plus rationnel que tout ce que les êtres humains auraient pu penser ou imaginer. Et je voudrais encore venir sur une troisième manière dont Jésus est un rocher de scandale pour aujourd'hui. Dans notre époque, il y a beaucoup de courants de pensée. Mais un des plus forts, c'est celui qui dit que tous les courants de pensée se valent. C'est une idéologie qui met en avant la tolérance dans le but de rassembler l'humanité dans un grand peuple où on vit ensemble dans la fraternité. Et pour faire cela, on dit qu'il n'y a pas de vérité absolue. On dit que personne n'a vraiment tort, que personne n'a vraiment raison. Et que surtout, ce qui est important, c'est de ne pas mettre en cause ce que les autres pensent, de ne jamais dire que quelqu'un pourrait avoir tort sur quelque chose. Dans une définition plus ancienne de la tolérance, être tolérant, ça voulait dire penser que les autres ont tort, être prêt à leur dire, être prêt à débattre avec eux, mais ne pas les exterminer parce qu'ils pensent quelque chose qu'on croit être faux. Et ça, je crois que c'était une bonne tolérance. Mais aujourd'hui, on a dévié vers une définition de la tolérance qui dit qu'on ne devrait pas penser qu'on a la vérité, qu'on ne devrait pas penser que les autres ont tort, qu'on ne devrait surtout pas penser qu'ils devraient changer d'idée et qu'on ne devrait pas mettre en cause ce que les autres pensent. Et ça, c'est très présent, ça imprègne toute notre société, toutes les idées, tout ce qui se dit aujourd'hui. Et face à cela, on a Jésus qui affirme « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Et ça, c'est un scandale. Jésus affirme pas seulement qu'il a la vérité, mais qu'il est la vérité. C'est beaucoup trop gonflé, c'est horriblement arrogant. Jésus qui dit qu'on ne peut pas aller vers Dieu autrement qu'en passant par lui, c'est l'opposé de tout ce que l'idéologie de la tolérance veut. Je crois que pour beaucoup de gens aujourd'hui, une chose qui les empêche de croire en Jésus, c'est que ça impliquerait que les autres religions ne mènent pas à Dieu. Et là encore, Jésus et son message sont une occasion de chute. Et ça peut être aussi le cas pour nous. On peut aussi se sentir mal avec notre message parce que ça nous donne l'impression d'être intolérant ou d'être arrogant, d'aller contre ce que toute notre société nous dit qu'on devrait faire pour bien vivre ensemble. Mais comme dans les autres exemples, une fois qu'on croit en Jésus et qu'on comprend vraiment ce que la Bible enseigne à son sujet, on découvre qu'en Jésus, il y a le meilleur espoir pour rassembler l'humanité dans la paix et la fraternité. En Jésus, il y a la promesse de rassembler un peuple immense de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, rassemblés par l'amour de Dieu reçu en Jésus-Christ. Et ça se fait, c'est l'amour de Jésus qui nous rassemble. Cet amour que nous partageons donne une unité beaucoup plus forte que ce que la tolérance peut créer. Parce que la tolérance, ce n'est pas l'amour. La tolérance, elle nous permet de vivre côte à côte, de se supporter, et finalement de se dire, oui, je m'en fiche un petit peu de ce que tu crois, mais oui, ce n'est pas plus mal que ce que moi, je crois. Mais l'amour, ça va beaucoup plus loin. L'amour, ça veut dire chercher passionnément le bien de l'autre, Et ça, eh bien, c'est que l'amour qu'on reçoit en Jésus-Christ qui peut le créer. Voilà donc trois manières dont Jésus est une pierre qui peut faire trébucher. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est humilié, qui a souffert, contre les attentes de voir la puissance de Dieu manifestée avec éclat. C'est un message de salut qui ne provient pas de la logique humaine, mais du plan de Dieu qui nous dépasse et qu'on n'aurait jamais pensé à inventer. C'est l'affirmation d'une vérité unique, d'un seul chemin de salut, dans un monde qui voudrait que tout se vaille et qu'il n'y ait pas de vérité ultime. Et tout ça fait que ce n'est pas évident de croire en Jésus. Et il y a sûrement parmi nous des gens qui se posent encore la question de s'ils veulent croire en Jésus ou non. Et quelque part, si vous trouvez que ce n'est pas évident, si vous trouvez que c'est difficile, que ça vous arrête, que ça demande réflexion, c'est normal. Parce que le message de Jésus, il va à contre-courant de beaucoup de choses que l'être humain attend, de beaucoup de choses que la société nous dit qu'on doit chercher. Alors c'est normal que ça ne soit pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a un choix à faire et qui demande réflexion et qui demande un engagement. Mais si Jésus peut être un rocher sur lequel on trébuche, il est aussi la pierre angulaire pour ceux qui croient. La pierre angulaire, c'est la pierre principale, c'est celle qu'on pose en bas au coin d'un mur. C'est la pierre sur laquelle toutes les autres pierres vont pouvoir s'appuyer. Elle donne la stabilité à tout l'édifice et c'est aussi elle qui dit où commence et où finit le mur. Donc faire de Jésus la pierre angulaire, c'est trouver en lui notre identité, c'est trouver en lui notre point d'appui, notre stabilité, c'est mettre toute notre confiance en lui. Et Jésus, et le salut que Jésus apporte, peuvent être vraiment cette pierre qui donne la stabilité, sur laquelle on peut avoir confiance pour savoir qui on est et pour tenir dans notre vie et dans notre foi. Pierre nous appelle à nous approcher de Jésus comme des pierres vivantes, pour former ensemble un édifice spirituel, pour être ensemble la maison de Dieu. Et donc c'est en s'appuyant ensemble sur Jésus qu'on peut former un tout cohérent. Et nous allons maintenant voir encore ce que Jésus dit, sur ce que ça veut dire d'être le peuple de Dieu ensemble en s'appuyant sur Jésus. Ensemble, on forme un édifice spirituel, une maison spirituelle, un lieu où la présence de Dieu se manifeste. Pierre dit aussi qu'on est un groupe de prêtres saints qui offrent des sacrifices spirituels. Il dit plus loin, un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer ses louanges. Et là encore, il cite l'Ancien Testament. Il cite de l'Exode et du prophète Ésaïe, deux textes qui concernaient le peuple d'Israël. Et l'Église, les chrétiens rassemblés, prolongent et accomplissent cette vocation du peuple d'Israël. Et quelle était cette vocation ? D'être un peuple choisi, une nation sainte. C'est-à-dire d'être des gens qui sont issus du milieu du monde, mais qui sont mis à part pour connaître Dieu et pour être son peuple. D'être des prêtres, c'est-à-dire des gens qui parlent aux hommes de la part de Dieu et qui parlent à Dieu de la part des hommes. Qui appellent les hommes à être réconciliés avec Dieu, à faire partie de ce peuple de Dieu, à faire de Jésus leur pierre angulaire. Et qui parlent à Dieu pour les hommes, qui intercèdent auprès de Dieu, qui prient pour le bien des hommes et pour leur salut. Pierre parle aussi d'offrir des sacrifices spirituels. Il ne précise pas beaucoup ce qu'il entend, mais un passage de la lettre aux Hébreux peut nous y aider. Il est écrit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Il est question d'un sacrifice de louange, et ça correspond à ce que Pierre dit aussi en disant qu'on a été racheté pour proclamer les louanges de Dieu. Un de nos rôles en tant que chrétiens, c'est de dire qui est Dieu. On le fait rassembler le dimanche matin en chantant ensemble les louanges de Dieu, et comme ça on participe à sa gloire. Mais l'Épître aux Hébreux parle aussi de confesser publiquement son nom, donc on est aussi appelé à dire qui est Dieu dans le monde qui nous entoure quand nous sommes dispersés au cours de la semaine, de dire dans le monde qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, de donner l'occasion au monde de rendre gloire à Dieu en reconnaissant que Dieu est un Dieu grand, puissant et bon. Ces sacrifices spirituels ont aussi la notion de faire le bien, de bien agir dans le monde, pour le bien du monde et pour la louange de Dieu. Il y a aussi la notion de s'entraider. Parce qu'on forme ensemble un même édifice spirituel, on est solidaires les uns des autres, et Dieu apprécie qu'on le vive et qu'on le manifeste. Alors voilà ce qu'on peut offrir à Dieu, notre louange, des bonnes actions dans le monde pour lui rendre gloire, et l'entraide les uns entre les autres. Pierre dit aussi que nous sommes un peuple racheté. Ce qui fait de nous le peuple de Dieu, c'est que Dieu nous a rachetés. C'est que Jésus a porté nos péchés afin que nous vivions pour la justice. Pierre parle de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Par notre propre nature, nous vivions dans les ténèbres, loin de Dieu. Mais parce que Jésus nous a rachetés, parce que Jésus a donné sa vie pour nous sauver, nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons vivre dans sa lumière, être le peuple de Dieu. Et cette notion d'être peuple de Dieu, cette notion d'être mis à part, ce n'est pas un truc exclusif pour se mettre au-dessus des autres, c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Tous peuvent faire partie de ce peuple de Dieu en mettant leur confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont une origine particulière, ce n'est pas réservé à ceux qui ont été élevés dans la foi, à ceux qui en ont entendu parler depuis toujours. Tous peuvent entrer dans ce peuple de Dieu, dans ce salut, par l'amour de Dieu et par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et tous ceux qui choisissent de suivre Jésus, de se mettre à sa suite, peuvent se regarder comme le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on serait meilleur que les autres, mais c'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix. Personne ne mérite de faire partie du peuple de Dieu, mais Dieu l'a offert en se donnant lui-même en Jésus. Et ça doit nous rappeler d'être reconnaissants pour l'appel de Dieu, pour la possibilité de faire partie de ce peuple. Une autre chose qui découle de tout cela, c'est que si nous avons pris comme fondement une pierre qui est aussi un rocher de scandale, si on se met à la suite de celui que tout le monde trouve des raisons de rejeter, il ne faut pas nous étonner de ne pas nous trouver entièrement à notre place dans ce monde. Au contraire, si nous suivons fidèlement Jésus, il faut nous attendre à ce que nous soyons aussi mal vus par le monde, que nous soyons une occasion de chute et des cailloux qui font trébucher. Si le monde autour de nous nous trouve bizarre et pas tout à fait acceptable, c'est en fait parfaitement normal, parce qu'on suit Jésus qui n'a pas été trouvé acceptable par le monde non plus. En conclusion, choisir comment on va considérer Jésus, c'est extrêmement important, c'est la chose décisive. Jésus peut être un rocher de scandale. On peut être offensé par sa faiblesse et son humiliation, les trouver indignes du Dieu Tout-Puissant. On peut trouver ridicule l'idée d'un Dieu qui devient homme pour sauver l'humanité de ses fautes. On peut trouver intolérante la prétention à être la vérité, à être le seul chemin vers Dieu. C'est finalement la chose logique à faire si on ne croit pas à ses paroles, à son message. Ou bien, on peut croire en lui, on peut faire de lui la pierre d'angle de notre vie. On peut s'appuyer sur lui, recevoir de lui notre identité, notre appartenance et notre salut. On peut reconnaître en lui la puissance, la sagesse et la vérité qui appartiennent à Dieu. Et dans cette voie-là, on accepte d'être racheté par Jésus-Christ. On s'appuie sur lui, on cherche à servir à sa gloire dans ce monde, on forme un même édifice, un même peuple avec tous les chrétiens du monde. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, si on est là ce matin, c'est qu'on a déjà fait ce choix à un moment donné de croire en Jésus et nous appuyer sur lui. Mais en même temps, ça peut être un choix qu'on a besoin de refaire et de renouveler de manière répétée, parce que le monde autour de nous continuent à nous dire que Jésus ne peut pas tenir leur route, qu'il faut le rejeter. Et même quand on a déjà choisi de le suivre, il faut rester vigilant. Il faut se demander si on accepte toujours le point de vue de la Bible sur Jésus, ou si petit à petit, le regard du monde prend le dessus, le regard du monde s'infuse dans nos pensées et dans nos cœurs et nous empêche de voir Jésus pour tout ce qu'il est. Et puis, pour ceux parmi nous ou autour de nous qui n'ont pas encore choisi quel regard prendre sur Jésus, eh bien c'est le choix le plus important qu'on puisse prendre. Le choix de faire de Jésus notre appui ou de le rejeter comme quelqu'un de scandaleux avec un message scandaleux. Et j'aimerais donner ce matin l'occasion de faire et de manifester un choix par rapport à ce dont j'ai parlé ce matin. Ce choix, il concerne d'une part ceux qui n'ont jamais choisi de prendre Jésus comme fondement. Eh bien, il y a l'occasion maintenant de se décider, de dire bah « Oui, ce Jésus, je veux le suivre, je veux mettre ma confiance en lui et m'appuyer sur lui et accepter le salut qui vient de lui. » Et puis j'aimerais aussi donner l'occasion de faire un choix pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont pris en partie le regard du monde sur Jésus et qu'ils ont besoin d'en changer, qu'ils ont besoin de renouveler leur confiance en Jésus, de renouveler leur regard sur Jésus pour vraiment prendre le regard qui vient de la Bible et renoncer aux autres regards que le monde essaye de nous transmettre. Après, ce sont des choix qui sont importants à faire et qui ne se font pas à la légère. Et je ne suis pas là pour essayer de faire du chiffre et de faire lever tout un tas de monde. Et en particulier, pour ceux qui n'ont jamais fait ce choix-là, il peut y avoir besoin d'y réfléchir. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, ça peut être assez normal de ne pas être prêt à se décider. Et pour tous ceux qui ont besoin d'y réfléchir, c'est normal et très bien de rester assis, et ça peut être la chose la plus sérieuse et la meilleure que vous ayez à faire ce matin. Et de la même manière, pour tous ceux qui se sont déjà engagés pour qui c'est clair et qui n'ont pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, eh bien, pas besoin de se lever, restez assis tranquillement à vos places. Mais s'il y a conscience d'un engagement à prendre et d'être prêt à le prendre, eh bien, je vais donner l'occasion de se lever pour le manifester. Je vais laisser environ une minute dans le silence pour que chacun puisse y réfléchir. Et puis ensuite, je dirai à ceux qui ont un engagement à prendre de se lever, après quoi je prierai pour l'ensemble de ceux qui se sont levés. Et si certains se rendent compte qu'ils ont besoin de plus parler, de plus prier par rapport à tout ça, eh bien ils pourront, après le culte, s'approcher de moi ou d'un des responsables de l'église ou d'un chrétien en qui ils ont confiance pour pouvoir en parler et recevoir une prière plus spécifique. Donc voilà. Je vous laisse maintenant une minute pour réfléchir. Vous avez besoin de vous engager à faire de Jésus votre pierre d'angle, comme un engagement nouveau ou comme un renouvellement d'un engagement dont on s'est éloigné. Que tous ceux qui veulent ce matin marquer un engagement à reconnaître Jésus comme pierre angulaire se lèvent maintenant.
Bien, je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, merci d'être notre pierre angulaire. Merci de nous avoir appelés à te connaître. Merci d'être ce point d'appui sur lequel on peut se reposer. Et je prie pour nous tous de nous aider à te reconnaître comme qui tu es, de nous aider à nous appuyer sur toi. Merci pour tous ceux qui ont déjà choisi de te reconnaître comme point d'appui. Et merci pour tous ceux que tu appelles et que tu veux amener à se positionner par rapport à toi. Sois avec nous dans tout ce que nous vivons. Amen.
Imaginons cette croix qui est devant nous, qui n'était pas si neuve que ça, où le Seigneur Jésus a été cloué et mort pour moi, pour mon salut. Jean-René, tu peux monter, s'il te plaît. Effectivement, nous allons prendre ce repas que le Seigneur a eu avec ses disciples juste avant de mourir. Nous allons prendre ce repas, le repas du Seigneur qui nous offre ce repas. Dans sa parole, il est marqué, il est noté, « Faites ceci en mémoire de moi ». Je vais lire l'institution par la lecture de Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci. Ceci est mon corps. » Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Nous allons prendre ce repas. Le déroulement va se passer ainsi. D'abord, nous allons passer avec le pain et juste derrière, avec le vin. Il y aura des plateaux. Sur ces plateaux, au centre, il y a des petits gobelets qui sont oranges. Et dans ces petits gobelets, il n'y a pas de vin, mais il y a du jus de raisin. Et puis, Jean-René et moi-même, nous prendrons les deux coupes qui sont là pour ceux qui ne veulent pas prendre les petits gobelets, mais plutôt boire à la coupe. Ils lèveront la main et nous passerons vers eux pour leur apporter la coupe. Prions.
Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu t'es donné toi-même pour nos fautes, pour nous laver de toute notre culpabilité. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et merci parce que tu nous invites à faire partie de ton peuple, à prendre part à ta vie. Merci parce que tu es ressuscité, que tu es vivant au milieu de nous et que tu nous communiques ta vie chaque jour. Et Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, nous rappeler de ton amour, de ton pardon et recevoir aussi ta vie et ta force pour vivre dans le monde où tu nous as placés. Amen.
Amen. Voilà, il nous faut encore quelques personnes, trois, je pense, pour pouvoir passer dans les rangs avec le pain et le vin.
À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation.
Apporter notre condamnation.
Nous allons prier. Oh oui, merci Dieu et Père, dans ta bonté, dans ton amour, tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus, pour mourir sur une croix. Nous venons de nous souvenir de ces souffrances que tu as eues. Ton corps a été meurtri, ton corps a été percé, ton sang a coulé, ce sang qui purifie de tout péché. Oui, merci Seigneur, parce que tu n'as pas abandonné, tu es allé sur la croix et tu es mort pour moi. Mais si tu es mort, Seigneur, tu n'es pas resté là. Tu es ressuscité. Et c'est parce que tu es ressuscité que nous pouvons être certains que nous avons cette vie éternelle. Parce que toi, Seigneur, maintenant, tu es dans le ciel et tu nous prépares une place. Quelle belle place tu nous prépares depuis si longtemps. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, merci de tout cœur. Et toi, Dieu et Père, à toi l'honneur, la gloire, la majesté. Amen. Nous allons passer à l'offrande. Ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer à chacun, mais nous voulons apporter aussi quelque chose de nos revenus, quelque chose de nos biens pour le Seigneur, pour l'activité qui se fait pour le Seigneur.
Pour l'instant, on va chanter la victoire de Jésus.
Nous allons prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la santé que tu nous accordes. Même si des fois nous avons quelques petits bobos, Tu es là à nos côtés, nous pouvons compter sur toi. Alors Seigneur, nous voulons aussi t'apporter cette offrande. Si elle a été distribuée, cette offrande, c'est parce qu'elle va être redonnée. Et nous voulons te remettre toutes les personnes qui vont prendre cet argent et la disperser à droite et à gauche. Que tu leur donnes toute l'intelligence, tout le savoir pour apporter cet argent là où elle doit aller. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons encore apporter quelque chose, notre argent, pour toi, Seigneur. Merci pour tout ton amour. Amen. Voilà, nous arrivons aux annonces. Je ne sais pas qui c'est toi ? D'accord.
Alors, pour les annonces, cette semaine, le jeudi 22, nous avons la rencontre des deux conseils entre l'Église protestante de Genève et puis l'Église évangélique de Meyrin. Samedi 24, la rencontre générale de la FRAE. Donc, nous sommes membres de la FRAE. C'est une rencontre générale qui permet de prendre connaissance de tout ce que fait la FRAE. Son investissement et ce qu'elle fait pour les églises. Il y a quelques exemplaires sur le présentoir des différents éléments qui vont être votés lors de cette rencontre générale. Dimanche prochain, culte à 10h, et puis aussi à 17h, on va passer sur la slide suivante, un moment de célébration à 17h, louange et écoute de Dieu. Oui, à Meyrin. Ensuite, le dimanche 2 décembre, donc à 10h, un culte animé par le groupe de jeunes. Il y aura le repas canadien et puis suivra le colloque à 14h15 avec, et vous ne le voyez pas très bien en bas à gauche, les enfants sont pris en charge. Comme ça, les familles peuvent aussi rester. Et donc, il y aura garderie et pour les enfants plus grands aussi, une prise en charge. Les 2 et 9 décembre, après le culte, un stand de livres de la librairie L'Eau Vive. Et puis, samedi 15 décembre, à 17h, ici, venez chanter Noël, un moment convivial où on a l'occasion de chanter des chants traditionnels, il y aura contes de Noël, et puis bien sûr, quelques boissons chaudes aux senteurs de Noël que vous connaissez tous avec des vins chauds et autres. Donc soyez les bienvenus et amenez du monde. Et je crois que Claude, tu as encore quelques... Et Alexandre aussi.
Elle a 96 ans, 96 pour les Français. Et elle me dit, je ne peux plus venir à Meyrin, ils vont croire que je ne m'intéresse plus à eux. Salutations de Madame Renée Gaulet. Elle est à l'IMS Pierre Laffée maintenant. Elle a déménagé, mais elle avait besoin d'un traitement. Alors je suis allé lui rendre service au HUG Trois Chênes. Hier, elle devrait revenir à l'IMS demain. Voilà, je voulais vous le dire pour que vous sentiez cette jeune sœur qui a envie de vous saluer et c'est ce que je fais maintenant. Aussi, on peut penser à un autre de nos frères et aînés, à Blaise Favargé. Il a une pneumonie et puis voilà, il a un traitement, difficulté respiratoire. Sinon, vous l'auriez vu là dans le coin quelque part, hein, et vous aurez fait un grand sourire. Mais pensons également à lui, à quelques-unes aussi de nos sœurs qui ont eu la douleur de perdre un partenaire ces derniers mois. Continuer à penser à ces personnes qui retrouvent un nouvel équilibre de vie, et particulièrement à Bertie Gensch, je pense à elle, son anniversaire aujourd'hui, elle le fête avec ses enfants. Il va de soi que Jean-René, si tu peux bien saluer ta communauté de notre part, je sais que Philippe le frappe, mais il aura peut-être oublié de le dire.
Merci. Beaucoup parmi vous ont reçu l'invitation au film qui s'appelle « Cœur de l'homme », projeté au cinéma de l'Empire, ça ne s'invente pas, à la rue de Carouge, mercredi 21 novembre. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, sachez que vous pouvez vous adresser à moi-même ou à Claudie, mais je ne le vois pas ce matin. Je vois toujours lui téléphoner, parce que lui, il peut vous assurer même les billets. Sinon, alors, ça sera sur place. Donc, mercredi, le 21 novembre, ce film est destiné surtout aux hommes, parce qu'il traite de la sexualité masculine, mais les dames sont bienvenues. Merci. 19h, je l'ai dit. Non, il me semble. 19h, 19h, 19h.
Bénédiction tirée de l'Épître aux Éphésiens. Que Dieu nous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans la paix du Christ.